L'opération commencera dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1.
Zabzalap. L'émission de Pierre de Sang.
Je suppose que vous vous demandez ce que vous faites ici.
Je ne veux pas conclure un quelconque marché. J'ai démissionné. Je ne veux pas me faire ficher, estampiller, enregistrer, ni me faire classer, puis déclasser ou numéroter. Ma vie m'appartient. Quelle farce.
Pourquoi ne pas nous mettre chacun dans une cellule jusqu'à ce que nous ayons avoué vous en finiriez une bonne fois pour toutes ?
Musical ou thématique, rendez-vous tous les lundis à 19h
sur Radio Campus 106.6.
La société qui est bien foutue. Elle met des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître.
C'est ça.
Un groupe de meufs à Grenoble adapte, travaille et joue une version très très libre des textes des monologues du vagin, Dave Ensler. Leur idée était de se réapproprier les textes qui leur parlaient et aussi de créer autour de leurs envies de témoignage, d'écriture. Au fur et à mesure, de nouveaux textes sont ajoutés et leur pièce est devenue un puzzle qui évolue en permanence. La pièce est jouée exclusivement en non-mixité, dans l'idée de créer un espace propice aux discussions pendant et après le spectacle. Elles ont ensuite eu envie d'en faire une version radiophonique. Un week-end, 12 meufs se sont réunies pour se partager les textes, pour des improvisations sonores, des discussions enflammées, et après des heures de montage son, elles ont enregistré leur CD. En voici quelques extraits.
Vagin. Son centre est précis et profond. Je n'ai pas toujours su cela. Je l'ai appris à l'atelier du vagin. Je l'ai appris de la femme qui organise l'atelier du vagin. Une femme qui a foi dans les vagins, qui les voit vraiment, qui aide les femmes à voir le leur en apprenant à voir celui des autres femmes. Pendant la première séance, la femme qui organise l'atelier du vagin nous a demandé de dessiner notre unique, magnifique et merveilleux vagin. C'est ainsi qu'elle en parlait. Elle voulait savoir comment nous voyons notre unique, magnifique et merveilleux vagin. Une des femmes, qui était enceinte, a dessiné une grande bouche rouge hurlante d'où se déversaient des pièces. Une autre, très maigre, a dessiné un grand plat orné de motifs. Moi, j'ai dessiné un immense rond noir et gribouillé des petites lignes autour. Le rond noir équivalait à un trou noir dans l'espace et les lignes étaient censées figurer des gens ou des choses ou simplement nos atomes de base qui s'étaient égarés là. J'avais toujours pensé à mon vagin comme à un vide anatomique qui aspirait au hasard des particules et des objets de son environnement. J'avais toujours perçu mon vagin comme une entité indépendante. Une sorte d'étoile tournant autour de sa propre galaxie, capable de se désintégrer sous l'effet de sa propre énergie gazeuse ou d'exploser et de se disloquer en des milliers de vagins plus petits, tournant chacun eux aussi autour de leur propre galaxie. Je ne pensais pas à mon vagin en termes pratiques ou biologiques. Je ne le voyais pas, par exemple, comme une partie de mon corps, comme une chose entre mes jambes, indissolublement attachée à moi. À l'atelier, on nous a demandé de regarder notre vagin avec un miroir de poche. Après un examen minutieux, nous avons dû décrire ce que nous avions vu. Je dois vous dire que jusqu'alors, tout ce que je connaissais de mon vagin n'était que ouï-dire et invention. Je n'avais jamais vraiment vu la chose. Mon vagin n'avait jamais existé que de manière abstraite. Ça me semblait tellement réducteur et étrange de le regarder, d'aller voir en bas, là, de cette façon qu'on nous enseignait à l'atelier, couché sur nos matelas bleus brillants, avec notre miroir à la main. J'ai pensé à ce qu'avaient dû ressentir les premiers astronomes avec leur télescope rudimentaire. Au début, je l'ai trouvé plutôt dérangeant, mon vagin. C'était un peu comme quand on voit un poisson ouvert la première fois et qu'on y découvre à l'intérieur, juste sous la peau, ce système sanguin différent et complexe. C'était tellement cru, tellement rouge, tellement vivant. Et ce qui m'a le plus surprise, ce sont les couches. Des couches et des couches, les unes à l'intérieur des autres. Mon vagin m'a stupéfiée. Quand est venu mon tour de prendre la parole, je n'ai pas pu prononcer un seul mot. J'étais muette. Je venais de m'éveiller à ce que la femme qui animait l'atelier appelait l'étonnement vaginal. Je ne désirais rien d'autre que rester allongée sur mon matelas, les jambes écartées, à examiner mon vagin jusqu'à la nuit des temps. C'était mieux que le Grand Canyon, primitif et extrêmement gracieux. Ça avait l'innocence et la fraîcheur coquette d'un jardin anglais. C'était drôle, très drôle, ça m'a fait rire. Ça pouvait jouer à cache-cache, s'ouvrir et se fermer. C'était comme une bouche, c'était comme le matin. Et puis aussitôt, une idée m'a frappée. Mon vagin, c'était moi. Il était ce que moi j'étais. Il n'était pas une entité, il était à l'intérieur de moi. La femme qui animait l'atelier a demandé ensuite, parmi les femmes présentes, combien avaient déjà eu des orgasmes. Deux d'entre nous levèrent timidement la main. Je n'ai pas levé la main, mais j'avais eu des orgasmes. Je n'ai pas levé la main parce que ces orgasmes avaient été accidentels. Ils m'arrivaient. Ils m'arrivaient dans mes rêves et je m'éveillais rayonnante. Dans l'eau souvent et surtout dans le bain. Une fois à Chamonix. Ils se produisaient à cheval ou à bicyclette, sur le stepper à la gym. Je n'ai pas levé la main parce que... Même si j'avais déjà eu des orgasmes, je ne savais pas comment les provoquer. Jamais je n'avais essayé d'en provoquer un. Moi, je croyais que c'était mystique, magique. Je ne voulais pas m'en mêler. Ça aurait été mauvais, croyais-je. Artificiel, trafiqué, du toc comme à Hollywood. Des orgasmes fabriqués selon la recette. Il n'y aurait plus de surprise, de mystère. Le problème, évidemment, c'était que la surprise n'existait plus depuis 2 ans. Je n'avais pas eu d'orgasme accidentel et magique depuis longtemps, et j'étais dans tous mes états. Et puis arriva le moment que je redoutais et attendais tout à la fois avec impatience. La femme qui animait l'atelier nous a demandé de ressortir nos miroirs de poche et de regarder si nous pouvions localiser notre clitoris. Nous étions là, tout le groupe, sur le dos, sur nos matelas, en train de chercher nos points, notre lieu, notre raison. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à pleurer. Peut-être par pur embarras, peut-être parce que je savais que j'allais devoir renoncer aux fantasmes gigantesques, dévorants, que quelqu'un ou quelque chose allait faire ça pour moi. Guider ma vie, choisir une direction, me donner des orgasmes. J'étais, entre nous soit dit, pétrie de superstitions et de croyances magiques. Cette recherche du clitoris, cet atelier abracadabrant sur ces matelas en plastique bleu brillant rendait toute la chose réelle, trop réelle. J'ai senti la panique m'envahir. Terrorisée, j'ai réalisé que j'avais évité de trouver mon clitoris, que je l'avais rationalisé comme un élément de la culture dominante consumériste, parce que, en fait, j'étais terrifiée à l'idée de n'avoir pas de clitoris. Terrifiée à l'idée d'être une de ces incapables constitutionnelles, une de ces femmes frigides, mortes à jamais, fermées, sèches, à goût d'abricot amer, mon Dieu. J'étais étendue là, à regarder mon clitoris, à le toucher du doigt, et tout ce à quoi j'arrivais à penser, c'était que lorsque j'avais 10 ans, j'avais perdu ma bague dans un lac. Que j'avais plongé et replongé pour atteindre le fond du lac en passant mes mains sur des pierres, des poissons, des capsules de bouteilles et des trucs vaseux, mais jamais sur ma bague. La panique que j'avais ressentie. Je savais que je serais punie. Je n'aurais pas dû la garder pour nager. L'animatrice a vu que je me débattais à l'aveuglette, transpirant et haletant. Elle est venue vers moi. Je lui ai dit « J'ai perdu mon clitoris, il est tombé, j'aurais dû l'enlever pour nager. » Elle s'est mise à rire. Elle a caressé mon front calmement et elle m'a dit que le clitoris ne pouvait pas se perdre, qu'il faisait partie de moi, qu'il était à la fois la sonnette à l'entrée de la maison et la maison elle-même. Je n'avais pas à le trouver, je devais être lui. Être lui, être mon vagin. Je me suis rallongée et j'ai fermé les yeux. J'ai replacé le miroir en bas. Je me suis regardée flotter au-dessus de moi-même. Je me suis regardée lentement m'approcher de moi et réentrer. Je me sentais comme un astronaute réintégrant l'atmosphère. Elle était très calme, cette réintégration. Calme et douce. Je rebondissais et me posais, puis rebondissais de nouveau. Je m'insinuais dans mes muscles, dans mon sang, dans mes cellules. Et bientôt, il ne m'est plus resté qu'à me glisser dans mon vagin. C'était soudain facile, et ça entrait. À l'intérieur, c'était tout chaud, palpitant, prêt, vivant. Alors, sans regarder, les yeux clos, j'ai posé mon doigt sur ce qui, brusquement, était devenu moi. C'était un peu frémissant d'abord, ce qui m'a incité à rester. Puis le frémissement s'est fait tremblement, éruption. Les strates se sont partagées encore. Le tremblement s'est grand ouvert sur un horizon de lumière et de silence, et j'ai senti la connexion s'établir, tandis que j'étais là, étendue, à gigoter sur mon petit matelas bleu. Mon vagin, moi.
Ces 3 dernières décennies de féminisme ont été marquées par la colère. Une colère de plus en plus profonde, tandis que se faisait jour la vérité sur la violence infligée au corps féminin. Qu'elle prenne la forme du viol, de violences sexuelles contre les petites filles, de la persécution des lesbiennes, de la violence physique à l'égard des femmes, du harcèlement sexuel, des attaques contre le droit à l'avortement, ou encore du crime internationalement pratiqué de mutilation sexuelle. En nommant ce qui était passé sous silence, nous avons pu convertir notre rage en une énergie positive.
Va, 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 va Vagin. Voilà, je l'ai dit. Je le redis. Vagin. Je le dis parce que c'est un mot invisible, un mot qui inquiète, qui dérange, qui inspire le mépris et le dégoût. Je le dis parce que je crois que ce qu'on ne dit pas, on ne le voit pas. On ne le reconnaît pas. On ne s'en souvient pas. Ce qu'on ne dit pas devient un secret. Et dans les secrets, souvent, s'enracinent la honte, la peur et les mythes. Je le dis parce que je veux un jour arriver à le dire, sans gêne, sans honte et sans culpabilité. Je le dis parce que on n'a encore proposé aucun mot qui soit plus global, qui décrive cette partie du corps féminin réellement et entièrement, sans omettre aucun de ses éléments. Chatte est probablement meilleure, mais trop de connotations lui sont attachées. Et je ne pense pas que la plupart d'entre nous aient une idée bien claire de ce dont on parle quand on dit chatte. Vulve est un bon mot, un mot spécifique, mais je ne pense pas que la plupart d'entre nous sachent avec précision ce que recouvre le mot vulve.
Dans le nord, on dit le petit coin, le poudrier. Au sud, la foufoune, le mistigris. Ici, le zizi, le pioupiou, la languette. Là, le kiki, la poupounette, le zigouigoui. J'ai trouvé la cracounette, la bibiche, le mimi, la boîte à malice. Le tutu, le turlututu, la bécassine, le pipi, le frifri, le bijou, le bonbon, la bébête, la nénette. La minette, la foufounette, la minouchette, la chounette, la chatounette. Ici, on dira la coucounette, et ailleurs la cracounette. À Marseille, on dit la figue, en Bretagne, on dit la moule.
Thank you. je vais vous raconter comment j'ai réussi à aimer mon vagin. C'est un peu embarrassant car ce n'est pas très politiquement correct. Ça aurait dû m'arriver dans un bain moussant, parfumé à la lavande, de la musique zen en fond sonore, et moi tombant amoureuse de ma féminitude. Je connais la chanson. Les vagins sont beaux. Comme dit ma copine Brigitte, notre haine de nous-mêmes n'est que de la répression intériorisée, le fruit de notre culture patriarcale. Foufoune de tous les pays, unissez-vous, il faut vivre en communion avec son sexe, je sais tout ça. C'est un peu comme si nous avions été élevés dans un monde où l'on aurait dit que les grosses cuisses sont belles, que l'important c'est de se faire plaisir, et que nous ayons pu nous adonner à notre passion pour les gâteaux à la crème et le chocolat sans culpabilité. Malheureusement, nous n'avons pas grandi dans cette culture-là. Je haïssais mes cuisses. Et je haïssais encore plus mon vagin. Je le trouvais absolument horrible. Je faisais partie de ces femmes qui l'avaient regardé et qui, depuis cet instant, ne voulaient plus en avoir. Il me rendait malade. Je faisais comme s'il y avait quelque chose d'autre entre mes jambes. J'imaginais des choses agréables. Un bouquet de fleurs des champs, un chaton angora, ou du sable de la baie de Somme. Quand je faisais l'amour, j'imaginais que mon partenaire pénétrait un foulard de soie, une rose rouge ou une belle poterie. Et j'ai rencontré Paul. Paul était le type le plus ordinaire de tous ceux que j'ai jamais rencontrés. Il était grand, maigre, sans signe particulier. Paul n'aimait pas la cuisine épicée, il n'aimait pas le rock. La lingerie sexy ne l'intéressait absolument pas. Il ne faisait jamais part de ses sentiments. Il n'avait pas de problème, pas de passion. Il n'était même pas alcoolique. Il n'était ni drôle, ni intéressant, ni mystérieux. Il n'était pas riche, il n'était pas pauvre. Oh, il n'était pas introverti, il n'était pas charismatique. Pour être tout à fait honnête, Paul n'était pas du tout mon genre d'homme. Je ne l'aurais absolument pas remarqué si je n'avais pas laissé tomber ma monnaie chez l'épicier. Il m'a aidé à ramasser les pièces et quand sa main a touché la mienne accidentellement, bah, il s'est passé quelque chose. Je me suis retrouvée avec lui au lit et c'est là que le miracle a eu lieu. Il s'est trouvé que Paul aimait les vagins. C'était un connaisseur. Il aimait leur toucher, il aimait leur saveur, il aimait leur odeur, mais par-dessus tout, il aimait les regarder. Il fallait qu'il les regarde. La première fois que nous avons fait l'amour, il m'a dit qu'il fallait d'abord qu'il me regarde. « Mais Paul, je suis là, devant toi ?»« Non, toi, m'a-t-il dit. J'ai besoin de te regarder, toi. Bon, allume la lumière. » Je me suis dit que ça devait être un malade et qu'il avait peur du noir. Il a allumé. Bon, a-t-il dit, maintenant je vais pouvoir te regarder. Paul, je suis là, là, devant toi. Paul, mais tu fais quoi là? J'ai besoin de voir à quoi tu ressembles. C'est pas une obligation, Paul, fais-moi ce pourquoi on est là, c'est tout. Non, faut d'abord que je voie. Tu as déjà vu un fauteuil en cuir rouge? T'as déjà vu un coquelicot, j'en suis sûre. Et Paul a continué. Paul, c'est terriblement intime. Tu peux pas juste faire ce que tu as à faire? Non, m'a-t-il dit. Là, c'est vraiment toi.
Là, c'est vraiment toi.
Ça se sent, ça se sent, ça se sent que c'est moi.
J'ai retenu ma respiration. Et il a regardé, regardé. Il a haleté, il souriait, regardait de plus en plus et gémissait. Il avait le souffle court et son visage était transformé. Oh, il n'avait plus l'air ordinaire. Il avait l'air d'un fauve affamé. « Tu es si belle, m'a-t-il dit. Tu es gracieuse, mystérieuse, innocente et sauvage. »
Et c'est là que tu vois tout ça?
J'avais l'impression qu'il me lisait les lignes de la main. Oui, tout ça. Et plein d'autres choses encore. Paul a regardé pendant presque une heure, comme s'il étudiait une carte. Comme s'il observait la lune, comme s'il me regardait dans les yeux, sauf que c'était mon vagin. Moi, je le regardais me regarder, il avait l'air tellement excité, tellement serein et heureux, que je me suis sentie moi-même toute mouillée, toute tourneboulée. J'ai commencé à me voir comme il me voyait, je me suis sentie belle et désirable. Il n'avait pas peur, il n'était pas dégoûté. J'ai commencé à me sentir importante. À me sentir fière. Bah, j'ai commencé à aimer mon vagin.
No, I don't wanna love you. Cause I know how you are. That's why I've been staying away from you. That's why I haven't called you. Cause I know you could possess my body. I know you could make me scrawl. I know you could have me shaking. I know you could have me climbing walls. That's why I don't want to love you. Cause I know how you are. Sure, you say you're right on and you're righteous. But with me, I know you'd be right off. Cause you know I could possess your body too, don't you? You know I could make you crawl. And just as hard as I'd fall for you, boy, well, you know you'd fall for me harder. That's why I don't wanna love you. Cause I know what you do to my heart. You'd scorch it just like a hot iron. Leave me burning alone in the dark. Cause I know you could make me suffer. I know you could drive me mad. I know you'd just take me in a circle. And when it got real, I know you'd disappear. That's why I ain't gonna love you. Cause I know you like to be in charge. You know I'd make you drop your guard. Cause I'd have you eating your ego. I'd make you pocket your pride. And just as hard as I'd be loving you, boy, well, you know you'd be loving me harder. That's why I don't wanna love you.
J'ai interviewé un groupe de femmes entre 65 et 75 ans. Leurs témoignages sont les plus émouvants de tous, sans doute parce que beaucoup d'entre elles n'avaient jamais parlé de leur vagin avant. Malheureusement, la plupart des femmes de cette tranche d'âge n'avaient qu'une faible relation consciente à leur vagin. J'ai alors compris quelle était ma chance d'avoir grandi dans une époque féministe. Une femme de 72 ans n'avait seulement jamais vu son vagin, Elle ne s'était jamais touchée qu'en se lavant sous la douche. Elle n'avait jamais eu d'orgasme. À 72 ans, elle avait commencé une thérapie. Avec les encouragements de son thérapeute, un après-midi, elle était rentrée chez elle, avait allumé quelques bougies, pris un bain, mis de la musique pour se réconforter et entrepris de découvrir son vagin. Elle m'a dit que ça lui avait pris plus d'une heure à cause de l'arthrose, mais que quand elle avait enfin trouvé son clitoris, elle avait pleuré. Ce monologue lui est dédié. L'inondation.
En bas, là, je n'y suis pas allée depuis 1953. Non, ça n'a rien à voir avec Eisenhower. Non, c'est une cave en bas. Très humide, moite. On veut pas y aller, croyez-moi. Ça rend malade. C'est suffocant, ça donne la nausée. L'odeur de la moiteur et de la moisissure, tout ça, beurk. C'est insupportable. Ça pénètre même dans les vêtements. Non, il n'y a pas eu d'accident en bas, là. Ça n'a pas explosé, ni pris feu, ni rien. C'était pas aussi dramatique. Je veux dire... Enfin, peu importe. Non, vraiment, peu importe. Je peux pas vous parler de ça. Pourquoi une fille bien comme vous va demander aux vieilles dames de parler de leur truc, en bas, là? Ça ne se faisait pas quand j'étais une jeune fille. Quoi? Jésus, d'accord. Il y avait ce garçon, Andy Leftkoff. Il était mignon. Enfin, c'est ce que je pensais. Il était grand, comme moi, et je l'aimais vraiment bien. Il m'a demandé de sortir avec lui, dans sa voiture. Je peux pas vous raconter ça. Je peux pas faire ça, parler de ce truc, en bas, là. On sait que c'est là, c'est tout, comme une cave. Ça gargouille parfois, en bas, là. On entend les tuyaux, et des choses s'y coincent, des petits animaux, et d'autres choses. Et ça devient mouillé. Et parfois, des gens doivent venir réparer les fuites. Sinon, la porte reste close, et on l'oublie. Je veux dire que c'est comme une pièce de la maison, mais une pièce qu'on ne voit pas et à laquelle on ne pense pas. Il faut qu'elle soit là pourtant, parce que toute maison a besoin d'une cave. Autrement, c'est la chambre qui serait au sous-sol. Ah oui, Andy. Andy Leftkoff. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Il avait beaucoup d'allure, et c'était un beau parti, c'est comme ça qu'on disait à mon époque. Nous étions dans sa voiture... Une nouvelle Chevrolet Bel Air blanche. Je me souviens m'être dit que mes jambes étaient trop longues pour le siège. J'ai de longues jambes. Elle cognait contre le tableau de bord. J'étais en train de regarder mes grosses rotules quand tout d'un coup il m'a embrassée avec passion et fureur, comme dans les films. Et ça m'a excitée. Tellement excitée que, eh ben, il y a eu une inondation en bas, là. C'était incontrôlable. C'était comme une force passionnelle. Un torrent de vie qui débordait de moi, traversait ma culotte et coulait directement sur le siège de la Chevrolet Bel Air toute neuve. C'était pas du pipi et pourtant ça sentait. Enfin, sincèrement, moi je n'avais vraiment rien senti du tout, mais Andy, lui, a dit que ça sentait le lait caillé et que ça tachait le siège. Il m'a dit que j'étais pas normale, que je puais. J'ai voulu lui expliquer que son baiser m'avait prise par surprise et que je n'étais pas comme ça d'habitude. J'ai essayé d'éponger l'inondation avec ma robe. C'était une robe toute neuve, jaune pâle. Et avec cette histoire, elle était devenue vraiment horrible. Andy m'a raccompagnée à la maison, sans dire un mot. Pas un seul mot. Je suis descendue de la voiture et quand j'ai refermé la portière, c'était comme si je fermais la boutique. À double tour. Cessation d'activité. Je n'ai jamais rouvert. Je suis sortie avec quelques garçons après cette histoire. Mais la seule idée de l'inondation me rendait trop nerveuse. Je me suis toujours tenue à distance. Je faisais des rêves invraisemblables. Oh, ils étaient complètement stupides. Pourquoi ? Eh bien, il y avait Burt Reynolds. C'est bizarre, mais c'est ainsi. Il ne m'a jamais fait grand-chose dans la vie, mais en revanche, dans mes rêves, c'était toujours lui. Dans l'ensemble, c'était toujours le même rêve. Bert et moi, on sortait, dans un restaurant comme ceux qu'on voit à Atlantic City, immense, avec des chandeliers et des machins partout, et des milliers de serveurs en habit. Bert m'offrait une orchidée, je l'épinglais sur mon blazer, ça nous faisait rire, et puis on mangeait des crevettes avec de la sauce cocktail. Des crevettes énormes, fabuleuses, et on riait encore plus. On était vraiment heureux ensemble. Puis, à un moment donné, il plongeait son regard dans le mien et m'attirait vers lui, au beau milieu du restaurant. Et là, juste au moment où il allait m'embrasser, la salle de restaurant commençait à trembler de partout. Des pigeons s'envolaient de dessous de notre table. Je me demande bien ce que ces pigeons faisaient là. Et l'inondation se produisait immédiatement. En bas, là. Ça coulait à flot hors de moi. Encore et encore. Et il y avait des poissons là-dedans et des petits bateaux et tout le restaurant se remplissait d'eau. Et Bert était là, debout, à patauger dans mon inondation, de l'eau jusqu'aux genoux. Et il me regardait d'un air horriblement déçu parce que j'avais encore recommencé. Et il regardait horrifié ses amis qui dînaient à d'autres tables, d'une Martine et ce genre de gens, et qui devaient quitter le restaurant à la nage empêtrés dans leur smoking et leur robe de soirée. Je ne fais plus du tout ces rêves. Je ne les fais plus depuis qu'ils ont enlevé tout ce qui avait un rapport avec ça, en bas, là. L'utérus, les tubes, ils ont enlevé tout le mécanisme. Le médecin pensait faire de l'humour. Si on ne s'en sert pas, m'a-t-il dit, on le perd. Mais j'ai appris en réalité que j'avais un cancer. Il fallait tout enlever autour. J'en aurais fait quoi de toute façon, pas vrai? Tout ça est bien trop surfait. J'ai fait d'autres choses, j'adore les expositions canines, je vends des antiquités. Comment je l'habillerais? Qu'est-ce que c'est que cette question? Comment je l'habillerais? Avec un grand panneau, fermé pour cause d'inondation. Qu'est-ce qu'il dirait? On en a déjà parlé, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas une personne qui parle. Il y a longtemps que ce n'est plus une chose qui parle, c'est un lieu où on ne va pas. C'est condamné, là, en bas, sous la maison. Vous êtes contente? Vous avez réussi à me faire parler? Vous avez fait parler une vieille dame de son truc, en bas, là? Vous vous sentez mieux? Vous savez, en fait, vous êtes la première personne à qui je parle de ça. Et je me sens un peu mieux.
À quoi ressemble mon vagin? Vous vous êtes déjà posé la question, vous? Moi, la première fois que je me suis posé la question, c'était après avoir vu les monologues du vagin. À quoi il ressemble?
Je me suis même demandé, est-ce que mon vagin ressemble à celui de ma mère? Est-ce qu'on aurait des vagins de famille comme on a des nez de famille? Moi, c'est pas de bol, on m'a toujours dit que mon nez ressemble à celui de mon père. Parce que j'ai appris aussi que, quand on est un fœtus, il y a un moment un processus chimique qui fait que d'un même organe de départ, ça devient mâle ou femelle. Ça donne une petite cavité douillette, ou alors un petit bout de chair qui pendouille. Eh oui. Non, je me suis posé la question parce que j'ai appris que ma mère a un vagin renversé. Moi, j'imagine qu'un vagin renversé, ça veut dire qu'au lieu d'être à l'horizontale, il est à la verticale. Ou l'inverse. En fait, c'est ma sœur qui m'a dit que ma mère lui a dit que sa gynéco lui avait dit qu'elle avait un vagin renversé. La gynéco de ma sœur, qui est aussi celle de ma mère, et oui, je vous préviens, c'est des histoires de famille, lui a dit qu'elle aussi avait un vagin renversé, et que la conséquence de tout ça, c'est que la levrette saignette. Bref, c'est ma sœur qui m'a dit tout ça, à la fois on imagine mal ma mère me dire « Écoute ma fille, tu as peut-être un vagin renversé, alors la levrette, laisse tomber. » Quoique... La gynéco a aussi dit à ma sœur qu'elle avait un vagin triste. Vous voyez ce que c'est, vous, un vagin triste? Moi, j'imagine un vagin déprimé, les parois blafardes, la tête glaireuse en larmes. Non, en fait, c'est plutôt l'inverse. Un vagin triste, c'est un vagin qui ne régule pas bien son écosystème, dont la flore vaginale est fanée, c'est l'hiver du vagin. Ou plutôt le désert. Des fois, son vagin est si sec qu'elle a de petites crevasses. Le désert, le Sahel, sec. Sec comme un coup de trique, comme dirait l'autre. Mais je m'égare. Donc ma question était, à quoi ressemble mon vagin? Parce que le vagin, c'est un peu comme un fantôme, c'est difficile à imaginer. Vagin, es-tu là? Non, le clitoris, ça, pas de problème, toujours présent. Mais le vagin? Je me suis même demandé, est-ce que mon vagin ressemble à celui de mes aïeuls? Vous vous êtes déjà imaginé le vagin de votre grand-mère, vous? Allez-y, essayez. Non, non, je vois bien que vous faites semblant. Fermez les yeux. Allez. Imaginez le merveilleux vagin de votre grand-mère. Bon, à l'âge que vous voulez, hein. Son jeune vagin de jeune fille. Son vagin par lequel est passée votre mère. Son vieux vagin barbu. Ouais, le vagin de ma grand-mère. Le vagin de ma grand-mère, c'est toute une histoire, vous savez. Une histoire triste. Moi, je l'imagine à la mort de mon grand-père. Je l'imagine comme un juif à la libération. J'imagine son vieux vagin fatigué, son vieux vagin torturé. Est-ce qu'il s'est remis de ses tortures? Est-ce qu'il a des cicatrices? Parce qu'un nez cassé, ça se voit, mais un vagin cassé. Est-ce que, à force qu'il y ait des nez cassés dans une famille, on naîtrait avec des nez cassés et qui sait? Qui dit que le vagin de ma mère ne s'est pas renversé par rébellion? Renverser les vagins! Renverser les vagins! Si je peux me permettre, je vais vous raconter l'histoire de ma grand-mère. Parce que l'histoire de son vagin, c'est elle qui me l'a racontée. Je l'écoute. J'espère que les mots qu'elle me dit sont une pommade pour son pauvre vieux vagin. Vous voyez, j'ai commencé guillerette, peur de rien. Et là, c'est plus dur. La pudeur revient, je ne veux pas. La pudeur, c'est du cache-vagin cassé. Comme les lunettes de soleil sur l'œil au beurre noir. Mais comment vous dire? Comment on en est venu à parler de ça? Ça a commencé avec sa naissance. Elle m'a raconté comment elle est née d'une fille mère. Une femme sûrement violée par une bande du village. Une femme triste, brisée. Elle m'a raconté comment elle s'est mariée après la libération avec un homme qui a exigé d'elle tous les soirs un rapport sexuel. On se demande bien qui était libéré. Je n'ai jamais aimé ça. Elle m'a dit. En 28 ans de mariage, pas une fois. Tous les soirs. Ma grand-mère a vécu 28 ans en état de siège. On ne risque pas d'en parler de ça dans les livres d'histoire. Et on en hérite de ça? Mais ma mère, les années 70, le MLF, libérez les vagins! Libérez les vagins! Et hop! Le vagin renversé. Et paf, elle rencontre mon père. Un jour que j'avais mal au vagin, elle m'a dit qu'après un rapport sexuel, elle avait eu le col de l'utérus un peu déchiré. Là, j'ai compris le coup du vagin renversé et de la levrette niette. Mes parents, les années 70, les femmes libérées. Mon père antisexiste qu'il se dit, et qui clame sur tous les toits qu'il s'y connaît en femme et qu'il est un super coup. Et crac. Libérer les vagins ? Oui, mais de quoi ? Et moi ? À quoi ressemble mon vagin ?
Le clitoris. Nous avons étudié le clitoris avec les moyens de la médecine moderne.
Aussi incroyable que cela puisse paraître, cela faisait plus d'un siècle que le sujet n'avait pas été étudié.
Le clitoris est l'organe le plus sensible du corps humain.
Il comporte plus de terminaisons nerveuses à son extrémité que n'importe quel autre organe, que ce soit la langue ou n'importe quoi d'autre.
Le clitoris comporte plus de 4000 terminaisons nerveuses de chaque côté et 8000 convergeant à l'extrémité de cette charmante petite pointe. Le pénis n'en a que 4 à 6000 en tout.
Donc le clitoris en a bien plus.
Mais surtout, elles sont comprimées dans un espace tout petit, ce qui fait que le clitoris est très sensible.
Voilà pourquoi beaucoup de femmes n'aiment pas qu'on le touche directement, parce que c'est trop...
Ouf, aïe, ouf.
Elles préfèrent un contact indirect.
Le clitoris n'est pas qu'un petit bouton magique.
Il est bien plus grand qu'on le pense. En réalité, le clitoris mesure en moyenne 8 à 10 cm à l'intérieur.
Mais ça, on ne peut pas le voir.
Le corps apparent de l'organe remonte sous le capuchon et se recourbe, puis se scinde en deux longues racines qui se prolongent le long de l'os pubien.
Il existe deux tissus érectiles qui descendent le long de la vulve.
Qui sont similaires à celui que l'on trouve dans le pénis.
Ces tissus ne constituent pas des organes distincts du clitoris, mais en font bel et bien partie. Quand le clitoris est excité, le sang afflue, l'organe double de volume, se raidit et se tend,
comme c'est le cas lors d'une érection masculine.
Les tissus qui se gonflent pendant l'afflux de sang créent ainsi une zone particulièrement érogène autour de l'urètre et du vagin.
Il faut savoir aussi que dans le clitoris,
contrairement au pénis,
il n'y a pas de muscles qui compressent le flux sanguin pour conserver la raideur. Et c'est pour cela que les femmes peuvent avoir plusieurs orgasmes à la suite.
Oui, oui, je confirme.
Seuls 30% des femmes ont des orgasmes lors des rapports sexuels.
Mais donc, suggérer que les 70% de femmes qui n'ont pas d'orgasme durant les rapports sexuels souffrent d'un dysfonctionnement ou sont en quelque sorte immatures, c'est une chose que nous nous garderons bien de défendre. Pourquoi ne pas dire que la pénétration n'est pas un moyen efficace pour exciter sexuellement les femmes ?
Il y a très peu de nerfs dans le vagin. Cela se comprend. Quand on accouche par le vagin, ça fait déjà mal. Mais imaginez que cet organe soit entièrement sensible de haut en bas.
Ah, ce serait insupportable.
Il est donc conçu pour être relativement inerte et insensible au niveau interne. Quand on va assez profond et qu'on appuie vers le haut ou vers le bas, parce que c'est le même faisceau de nerfs qui s'étend aussi vers l'anus, là, on commence à ressentir des choses. Mais on ne ressent rien dans les tissus de la paroi vaginale.
En réalité, ce qu'on appelle l'orgasme vaginal vient bien d'une stimulation par l'intérieur du vagin. Mais c'est le même complexe clitoridien qui est stimulé. Et donc, qu'on en soit fier ou non, on finit toujours par se servir du même organe.
Le clitoris. Nous avons toujours pensé que les femmes ne doivent pas être jalouses du pénis.
Parce que si le pénis est une sorte de fusil...
Alors le clitoris...
C'est une mitrailleuse!
En ce qui me concerne, du moins, il peut tirer en rafale un bon moment. Est-ce que c'est toujours chaud dans la culotte des filles? L'autre jour, ça m'a pris, comme ça, soudain, sans crier gare. J'étais devant l'ordinateur, à essayer d'aligner des idées qui ne venaient pas. Et d'un coup, il était là, le petit titillement, dans ma culotte. Ah ça, je l'ai bien senti. Et oui, c'est comme ça. Mon corps me rappelle à l'ordre, souvent. À l'ordre impérieux et urgent de l'envie sexuelle. Personne à la maison. Je suis seule. Mais pour combien de temps? J'hésite un moment, et enfin, je me décide à répondre à l'appel urgent de ma chair. Direction la salle de bain. L'endroit est certes inconfortable et dénué de tout charme, mais c'est la seule pièce de l'appartement qui ferme à clé. Pas question que je sois troublée par l'apparition impromptue d'un de mes enfants. Et là, tout va très vite. Pantalon à terre, pas le temps d'enlever le haut. Frénétique, je me caresse le ventre, les seins, les cuisses, comme pour annoncer à mon cerveau, par l'intermédiaire de ma peau, que le jeu a commencé. Deux doigts dans ma bouche, je les mouille avidement. Tiens, ma tête dans le miroir. J'ai rarement l'occasion de me voir dans ces moments excités. Pendant que ma main descend doucement vers l'endroit précis que j'ai appris à connaître, je me laisse glisser accroupie contre le mur. Et là, encore, tout va très vite. Le plaisir ne tarde pas à venir, je le sens. Dans mes bras, dans mon ventre, au bout de mes seins, sur mes tempes, je me surprends à soupirer un peu fort. Je me contiens. Je suis pressée de jouir. J'ai peur que quelqu'une ne débarque et me coupe dans mon élan. Ma main droite se fait plus rapide. Les doigts de ma main gauche s'enfoncent plus profondément. Ça y est. Je sens enfin la puissante étreinte avant le relâchement final. Ça y est. Je retombe assise, la tête en arrière, vidée mais emplie de frissons, étourdie, enivrée. Après quelques instants, je reprends mes esprits, me relève et me rhabille. La tension a disparu. Il n'y a plus qu'une sensation de relâchement général de mon être.